Bien, bonjour et bienvenue à tous. Dans des journées comme aujourd'hui, nous apprécions comme toujours la qualité du système de chauffage du Collège de France, n'est-ce pas? Alors, la semaine dernière, nous reprenions le cours de nos travaux en rappelant le cheminement de notre enquête généalogique et critique sur la constitution du texte des entretiens associés à Confucius, donc en chinois le Lunyu, et de manière concomitante sur la construction du personnage de Confucius que l'on connaît donc en chinois sous le nom de Maître Kong. C'est une enquête qui nous a permis de faire ressortir le caractère éminemment instable, voire aléatoire, de la composition d'un texte pourtant considéré comme fondateur par toute la tradition chinoise ultérieure. Et cette enquête nous a en même temps permis de faire ressortir le caractère tout à fait paradoxal de la construction du personnage associé à ce texte. Ce personnage de Maître Kong, Confucius donc, porté par les éléments de légende et même de folklore populaire qui ont circulé sur son compte pendant plusieurs siècles après son vivant, donc situé au 6e, 5e siècle avant l'ère chrétienne, ce personnage qui, en même temps, était quasi divinisé en faisant l'objet d'un culte impérial officiel dès le tout début donc, de l'ère impériale. Donc, en ce qui concerne aussi bien le texte que le personnage auquel il est associé, nous en sommes arrivés à l'hypothèse selon laquelle ils se seraient tous les deux, donc le texte et le personnage, cristallisés en quelque sorte avec l'avènement des Han. Dont je vous rappelle qu'il s'agit de la première dynastie impériale à proprement parler, qui a duré 4 siècles, entre le 2e siècle avant Jésus-Christ et le 2e siècle après. Donc, ce texte et ce personnage se seraient cristallisés donc, avec cette première dynastie impériale dans la mesure où c'est cette dynastie Han qui a mis en place bon nombre d'institutions représentatives d'un nouvel ordre sociopolitique, à la fois expansionniste et fortement centralisé. Alors, en poussant cette hypothèse jusqu'à l'extrême, on serait même tenté de dire que le processus de réinvention de Confucius, auquel nous assistons actuellement, aujourd'hui même, en Chine continentale, c'est-à-dire en Chine populaire, ce processus qui tend à faire de lui une icône identitaire de, je cite, « la grande civilisation chinoise », nous serions tentés de dire donc que ce processus ne date pas d'hier ni même d'avant-hier. On pourrait même aller jusqu'à dire que Confucius n'est peut-être dès l'origine rien d'autre que cela, à savoir une invention destinée à répondre aux besoins idéologiques d'un ordre politique nouveau, comme c'était le cas sous les Han. il y a plus de 2000 ans, et comme c'est de nouveau le cas aujourd'hui, à l'aube du troisième millénaire, dans une Chine lancée dans une course à la puissance et à la domination planétaire cette fois. Si tel est le cas, c'est-à-dire si cette hypothèse est justifiable, dans ces conditions, est-ce qu'il faut se résoudre à ne voir dans les entretiens qu'un agglomérat aléatoire de bribes de textes, ce que les philologues qui se désignent eux-mêmes comme des révisionnistes appellent donc des unités textuelles, en anglais donc des building blocks, c'est-à-dire donc des blocs de construction, donc des bribes de textes qui seraient d'origine très diverses et qui auraient été mises ensemble dans un compendium intitulé donc les entretiens, le Lunyu, et attribué à ce maître Krong à des fins purement idéologiques. Donc, est-ce que cette hypothèse-là tient la route, en quelque sorte, ou est-ce que, au contraire, il faut voir dans ce texte, comme l'a fait toute la tradition chinoise, un thésaurus de propos attribué à un maître exceptionnel et unique en son genre et porteur d'un message de sagesse pour toutes les générations humaines à venir, un peu à la manière, comme nous essayons de le montrer dans le cours de l'année dernière, un peu à la manière donc des évangiles et du personnage du Christ qui en est la figure centrale. Donc, en d'autres termes, le texte du Lunyu, donc des entretiens, et la figure de Maître Krong, qui ont fait l'objet, comme nous l'avons vu, de plusieurs phases de mondialisation, est-ce que ce texte et ce personnage possèdent réellement un potentiel d'universalisation, mondialisation et universalisation ne signifiant pas la même chose. Donc, en somme, en quoi est-ce que ce texte et ce personnage peuvent prétendre à l'universalité? Ça, c'est donc la question qui sous-tend véritablement l'intitulé du cours de cette année, cette question de savoir si le confucianisme est un humanisme. Alors, comme je le rappelais la dernière fois, cet intitulé est un clin d'œil à l'intitulé de la conférence donnée par notre Sartre national, donc le 29 octobre 1945, et dont le sujet annoncé était la question: l'existentialisme est-il un humanisme? Mais c'est la forme affirmative, donc l'existentialisme est un humanisme, qui a été finalement retenue pour la publication du texte de cette conférence. Je rappellerai également que cette conférence de Sartre, de 1945, a trouvé un écho dans la non moins fameuse lettre sur l'humanisme de Heidegger, donc Brief über den Humanismus, daté de 1946 et adressé donc à Jean Beaufret, qui est son porte-parole qui était son porte-parole et en quelque sorte son prophète en France. Nous voyons sur cette photo donc Heidegger en compagnie de Jean Beaufret, et on peut dire que Jean Beaufret en quelque sorte, fut à Heidegger, au XXe siècle, ce que Victor Cousin fut à Hegel au XIXe. Donc, dans les deux cas, celui de la conférence de Sartre et celui de la lettre de Heidegger, il s'agit de textes relativement courts, mais philosophiquement redoutables, très denses, et qui supposent d'avoir au préalable lu rien moins que des monuments comme « L'être et le néant » de Sartre et « Sein und Zeit », c'est-à-dire donc « Être et temps » de Heidegger. Donc nous avons là affaire à de la philosophie fondamentale que, pour ma part, je laisserai volontiers donc, aux philosophes fondamentaux. Donc ne comptez pas sur moi pour vous démontrer par une forme de syllogisme que le confucianisme est un existentialisme ou bien que le confucianisme est une forme de Dasein, c'est-à-dire donc d'être là. Donc, plaisanterie mise à part, le fait que deux des philosophes majeurs du XXe siècle européen se soient fendus d'une réflexion sur l'humanisme précisément dans les années 1945-1946 nous porte à dater la qualification d'humanisme de l'immédiat après-guerre, c'est-à-dire après Seconde Guerre mondiale, à ce moment particulier où l'Europe se relevait à peine de l'expérience traumatique d'une perte quasi totale, sinon totale, d'humanité, après des années de guerre à l'échelle mondiale, après les entreprises d'extermination nazie, sans oublier donc les purges staliniennes dont les intellectuels d'Europe occidentale n'ont pris conscience que plus tard. De fait, si l'on reprend l'historique des traductions modernes des entretiens attribués à Confucius en langue européenne, on constate que la qualification d'humanisme appliquée à l'enseignement de Confucius, cette qualification qui nous apparaît aujourd'hui comme une évidence ou un truisme, cette qualification d'humanisme n'apparaît en fait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire dans la seconde moitié du siècle dernier. Notre question, le confucianisme est-il un humanisme, n'est donc pas une question purement rhétorique, puisqu'elle n'a pas toujours été formulée dans ces termes. Comme nous l'avions vu il y a 3 ans, et je vous rappelle encore une fois que les cours même des années précédentes sont toujours disponibles en accès libre et téléchargeables gratuitement donc sur le site du Collège de France, c'est grâce à des traductions des entretiens en anglais, le titre est le plus souvent traduit en anglais par Confucius ou bien Confucian Analects. Donc les anglophones reprennent volontiers donc le mot grec qui désigne donc des éléments que l'on assemble. Donc c'est grâce à ces traductions en anglais que l'on commence à sortir des, on pourrait dire, des traductions de missionnaires dont les premières, je vous le rappelle, ont été faites en latin par les jésuites dès le XVIIe siècle. Là, je dois aller chercher la diapositive où vous voyez figurer donc sur la première ligne le fameux Confucius Sinarum Philosophus, paru donc à Paris en 1687, dont nous avions vu il y a quelques années qu'il s'agit véritablement d'un monument de traduction dû à un groupe de jésuites européens qui ont ainsi porté à la connaissance des élites intellectuelles européennes donc une très grande partie du corpus canonique confucéen. Donc ils l'ont fait en latin et je profite de l'occasion pour vous présenter ici une traduction en français d'un texte très fameux du jésuite italien, donc Matteo Ricci, qui avait donc composé en chinois une sorte de catéchisme à l'attention des élites intellectuelles chinoises des 16e, 17e siècles, et qu'il a intitulé donc dans cette nouvelle traduction en français due à Thierry Ménard, qui est lui-même un jésuite professeur au département de philosophie de l'université Sun Yat-sen de Canton actuellement, titre qu'il a choisi de rendre par le sens réel de Seigneur du ciel, donc en chinois Tianzhu Shi. Donc les jésuites sont véritablement cette première médiation que l'on pourrait considérer comme la première phase de mondialisation donc de Confucius par donc le médium du latin. Alors, ces traductions de missionnaires jésuites en latin à partir des 16e, 17e siècles sont suivies au 19e siècle de traductions en langue vernaculaire européenne, donc principalement l'anglais, le français et l'allemand, mais continue donc à être le fait de missionnaires catholiques ou protestants présents en Chine, donc au XIXe siècle, en très grand nombre, et le plus souvent assistés dans leur travail de traduction par des lettrés chinois qui étaient formés jusqu'à l'abolition du système des examens, ou autrement dit des concours mandarinaux, en 1905. Peu avant donc l'effondrement du régime impérial dans son entier, donc en 1911. Donc ces lettrés chinois qui étaient formés à l'exégèse canonique dans la droite ligne de l'orthodoxie et des méthodes philologiques de l'érudition chinoise traditionnelle. Alors, je vous rappelle donc que parmi les plus connus, nous avons donc des traductions dans ces langues européennes qui sont au demeurant encore rééditées et utilisées aujourd'hui. Alors, pour l'anglais, vous avez bien sûr le nom de James Legg, qui a vécu de 1815 à 1897, missionnaire écossais congrégationaliste, donc dont vous avez une image ici, qui est parti en Asie en 1839 et avec l'aide d'un lettré chinois qui est représenté sur cette illustration également, un certain Wang Tao, Donc Legg fait une traduction des entretiens, donc il intitule The Confucian Analects, qui paraît en 1861 dans le premier d'une série de 5 volumes intitulés donc The Chinese Classics, donc les classiques sous-entendus confucéens chinois. Ce James Legg occupera donc à partir de 1876, pendant une vingtaine d'années jusqu'à sa mort, donc en 1897, la toute première chaire de sinologie du Royaume-Uni, la Chair of Chinese Language and Literature, donc la chaire de langue et littérature chinoise à Oxford. Mais je vous rappelle à ce propos que c'est le Collège de France qui a créé la toute première chaire d'études chinoises de toute l'Europe dès 1814. Donc nous devançons les Anglais très largement, et c'est un événement que nous allons commémorer ici même par un grand colloque international, donc organisé conjointement par le Collège de France et par une partie chinoise en juin prochain, c'est-à-dire donc en 2014, exactement 200 ans après la création de la chaire attribuée donc à Jean-Pierre Abel-Rémusat. Alors, pour le français, nous avons donc également un missionnaire qui est aussi un missionnaire jésuite qui répond au doux nom donc de Séraphin Couvreur, qui a vécu entre 1835 et 1919. C'est donc un missionnaire jésuite qui est parti en Chine en 1870 et qui est resté jusqu'à sa mort à Xi'an, jusqu'à donc 1919. Donc en 1895, c'est-à-dire peu de temps après James Legg, Séraphin Couvreur publie en Chine la traduction des 4 livres, c'est-à-dire donc de ce corpus confucéen resserré, qui comprend donc les entretiens de Confucius et de ses disciples. C'est le titre français que Séraphin Couvreur donne à sa traduction. C'est à Couvreur que nous devons également donc la traduction en français et en latin de la plupart donc des classiques confucéens. Couvreur éprouve le besoin justement de donner sa traduction en français mais aussi en latin à l'attention donc des missionnaires et du public européen non francophone. Alors donc vous voyez que à la toute fin du 19e siècle, le latin est encore une langue de communication pour les élites savantes européenne. Donc on pourrait dire que cette traduction de Couvreur, qui a encore cours aujourd'hui, est un petit peu, représente la transition justement entre ces traductions de missionnaires et les traductions ultérieures. Et pour l'allemand, nous avons donc le fameux Richard Wilhelm, qui a vécu entre 1873 et 1930, donc un pasteur et missionnaire protestant allemand, dont vous avez la photo ici, qui est parti en Chine en 1899, c'est-à-dire juste avant que n'éclate la guerre des Boxers. Alors, de même que James Legg, l'Écossais, travaillait avec Wang Tao, donc Richard Wilhelm a travaillé avec un lettré chinois du nom de Lao Naixuan sur une traduction des entretiens de Confucius qu'il a rendu en allemand sous le titre de Confucius Gespräche, qui est paru en 1910. Mais comme certains d'entre vous le savent peut-être, Richard Wilhelm est surtout connu pour sa traduction du livre des mutations, donc le Yi Jing, qu'il a traduit sous le titre Das Buch der Wandlungen, qui est paru en 1923 et qui a ensuite fait l'objet de retraductions, notamment en anglais. Donc, en 1910, paraît également donc en anglais la traduction de William Edward Soothill, qui a vécu de 1861 à 1935, qu'il intitule également donc The Analects of Confucius, et qui paraît simultanément donc en Chine, au Japon et en Angleterre. Donc ce William Edward Soothill, dont vous avez la photo ici, est un missionnaire protestant méthodiste qui est parti donc en Chine, dans la région de Wenzhou, dont il n'hésite pas à apprendre le dialecte, et qui sera plus tard nommé professeur de chinois à Oxford en 1920, dans la succession de James Legge. Alors, donc, à Oxford, vous avez une tradition sinologique qui date de la fin du XIXe siècle, mais ce que les gens d'Oxford appellent the other place, c'est-à-dire Cambridge, the other place, c'est-à-dire l'autre endroit, mais je vous rassure, la réciproque est tout aussi valable, puisque les gens de Cambridge appellent Oxford the other place aussi, donc on ne daigne pas appeler l'autre endroit par son nom, hein. Donc the other place, donc Cambridge, a également sa chaire donc de sinologie, qui revient à un dénommé Herbert Giles, qui occupe donc cette chaire de chinois à Cambridge, et dont le fils, Lionel Giles, dont vous avez la photo ici, qui a vécu entre 1875 et 1958, le fils, donc Lionel Giles, est également l'auteur d'une traduction partielle donc des entretiens de Confucius, qu'il intitule pour sa part The Sayings of Confucius, hein, donc les propos de Confucius. Donc Lionel Giles choisit donc de laisser tomber le mot grec et revient donc à une traduction plus contemporaine en parlant des propos de Confucius, qui paraît donc à Londres aux éditions de John Murray en 1907. Alors, la première traduction qui rompt de manière significative avec les traductions de missionnaires est probablement la traduction anglaise, qui est encore tout à fait d'actualité aujourd'hui, d'Arthur Whaley, qui a vécu donc de 1889 à 1966, dont vous avez la photo ici. Donc, je reviens à ma liste. Vous avez le nom de tous ces éminents sinologues britanniques sur la diapositive. Donc, Arthur Whaley fait paraître à Londres en 1938 une traduction qu'il intitule de nouveau, donc il revient au mot grec, de nouveau « The Analects of Confucius ». Alors, Arthur Whaley a cette particularité non seulement de n'être pas missionnaire, mais également de n'avoir jamais mis les pieds en Extrême-Orient. C'est quelqu'un qui a fait sa carrière, une carrière purement universitaire, donc à la fameuse School of Oriental and African Studies, donc la SOAS, l'école d'études orientales et africaines de Londres, Alors, malgré le fait qu'il n'a jamais mis les pieds en Extrême-Orient, ça ne l'a pas du tout empêché de faire de nombreuses et excellentes traductions du chinois et même du japonais. Alors, selon l'introduction à sa traduction, la visée de Whaley est de faire des entretiens un texte à valeur actuelle. Mais à aucun moment, Whaley, et c'est tout à fait frappant, ne parle d'humanisme à propos de Confucius. Alors, à noter que la même année, 1938, paraît à New York un ouvrage intitulé « The Wisdom of Confucius », c'est-à-dire donc la sagesse de Confucius. Donc il ne s'agit pas d'une traduction des entretiens, mais une sorte de, comment dire, d'étude sur la sagesse de Confucius, qui comprend de nombreuses citations traduites des entretiens. Et cet ouvrage est dû à Lin Yutang, dont vous avez le nom sur la diapositive ici, qui a vécu de 1895 à 1976. Vous avez sa photo ici. Comme vous le voyez, il tient à se montrer donc en costume traditionnel chinois, bien qu'étant parfaitement occidentalisé, parfaitement bilingue chinois-anglais, né en Chine d'un père pasteur, formé à Harvard. Ce lettré chinois, donc, qui a passé une bonne partie de sa vie aux États-Unis, jouit alors d'une certaine audience, donc dans les années 1930-1940. Il jouit d'une audience tout à fait considérable dans le monde anglo-saxon. Il est au demeurant proche de la femme écrivain américaine, donc Pearl Buck, et il s'emploie à faire connaître auprès des élites américaines la culture chinoise, et a joué véritablement un rôle important de passeur entre les mondes chinois et américains. Alors, son ouvrage « The Wisdom of Confucius » commence donc avec ces considérations qui me paraissent assez importantes pour notre propos ultérieur, pour que je vous les cite donc dans l'anglais d'origine. Lin Yutang commence ainsi. Can one be enthusiastic about Confucianism nowadays? I wonder. The answer seems to depend on whether one can be enthusiastic about sheer good sense, a thing which people usually cannot work up very much enthusiasm for. The more important question seems to be whether one can believe in Confucianism nowadays. This is a question especially important to the modern Chinese of today, a question that cannot be brushed aside. For there is a centrality, or shall I say, universality about the Confucian attitude and point of view, reflected in a joy in Confucian belief that I see even among maturing modern Chinese who have received a Western education. Alors, je traduis. Donc, Lin Yutang commence par se demander, est-ce que on peut être enthousiaste à propos du confucianisme aujourd'hui? Je me le demande. La réponse semble dépendre de la question de savoir si on peut être enthousiaste à propos d'un pur et simple bon sens. Une chose qui suscite assez difficilement l'enthousiasme, hein, puisque, en fait, on pourrait dire que la sagesse de Confucius peut passer pour du simple bon sens. Alors, la question plus importante semble de savoir si on peut encore croire au confucianisme aujourd'hui. Donc là, Lin Yutang soulève une question qui va être importante pour nous. Est-ce qu'on peut encore croire, est-ce qu'il peut y avoir encore une croyance ou une foi dans le confucianisme aujourd'hui? Et Lin Yutang poursuit en disant « C'est une question qui est particulièrement importante pour les Chinois modernes d'aujourd'hui, hein, une question que l'on ne peut absolument pas mettre de côté. Car il y a une centralité, ou pourrais-je dire une universalité, à propos de l'attitude et du point de vue confucéen, qui se reflète dans la joie que prennent les Chinois modernes, même ceux qui ont reçu une éducation occidentale, dans la joie qu'ils prennent dans cette, ce Confucian belief, dans cette croyance, dans cette foi confucéenne. Alors, je ne développe pas pour l'instant ce que Lin Yutang entend par justement ce Confucian belief, hein, cette croyance ou cette foi confucéenne, hein, mais c'est une question donc qui va être au centre de notre propre réflexion. Et enfin, donc, je signalerai pour terminer donc la traduction en anglais. Là, donc, vous avez la photo de la couverture de l'ouvrage de Lin Yutang avec donc notre personnage de Confucius assis devant une table. Et la dernière traduction que je voulais vous signaler, parce qu'elle est tout à fait originale, c'est la traduction du poète américain Ezra Pound, qui a vécu donc entre 1885 et 1972, dont vous avez la photo ici, dans sa période de jeunesse. Ce poète se trouve être le contemporain donc du sinologue britannique dont j'ai parlé tout à l'heure, Arthur Whaley. D'ailleurs, il a aidé à la publication des premières traductions de Whaley, et il s'en est sans doute servi aussi pour sa propre traduction de Confucius, qu'il intitule également donc Confucian Annalettes, qui est paru à Londres en 1951. Alors, donc, alors il est évident que la traduction d'Ezra Pound n'a pas véritablement de crédit sinologique. Ezra Pound connaissait à peine le chinois, mais en tout cas, c'est une traduction de poète, et on pourrait dire que quelquefois, elle fait preuve de trouvailles tout à fait intéressantes. Alors, toujours est-il que dans toutes ces traductions et études sur les entretiens de la première moitié du XXe siècle, il est bien question de l'humain, hein, de la primauté de l'homme dans l'enseignement de Confucius, mais dans aucune de ses traductions et dans aucune de ses études, il n'est question de l'humanisme de Confucius. Or, c'est pourtant par le biais de ces traductions que se réalise donc ce second moment de mondialisation de Confucius. La première mondialisation s'était faite en latin avec les jésuites, et cette seconde mondialisation donc se fait essentiellement donc en anglais. Alors, ce second moment de mondialisation ne concerne plus une diffusion réservée aux élites lettrées qui avaient accès à cette langue de communication des clercs ou des savants qui était le latin, mais il s'agit d'une diffusion bien plus large qui est portée par l'anglais moderne et qui projette de Confucius une image en quelque sorte beaucoup plus démocratisée, à savoir celle d'un Confucius qui s'exprime dans une langue du quotidien, presque comme un monsieur tout le monde, hein, qui remplace l'image un petit peu poussiéreuse d'un Confucius philosophe, sage suprême, statufié, et laissant tomber du haut de son piédestal des apophthegmes sentencieux et moralisateurs. Donc là, nous avons une sorte de Confucius mondialisé et modernisé. Alors, cette diffusion donc, de Confucius grâce à l'anglais, qui est en train, au début du XXe siècle, de devenir la nouvelle langue internationale, connaît donc, comme je viens de le montrer, une phase d'abord proprement anglaise, hein, c'est-à-dire britannique, à partir de la fin du XIXe et dans la première moitié du XXe siècle. Et j'y ai un petit peu insisté parce que, comme nous allons le voir, nous allons y revenir, cette phase anglaise, hein, qui commence avec les missionnaires protestants anglais, donc présents en Chine à la fin du XIXe siècle, et ensuite qui voit le relais pris par les sinologues britanniques. Cette phase proprement anglaise a son importance donc dans notre propos à venir. Ensuite, bien sûr, cette mondialisation anglophone est portée par la montée en puissance donc américaine qui s'affirme bien sûr à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Cette domination américaine se traduit à partir de ce moment-là donc par une emprise grandissante des relectures américaines de Confucius et de ses entretiens, donc à partir du milieu du XXe siècle, comme nous l'avons vu il y a également quelques années. Alors, cette nouvelle forme de mondialisation de Confucius de l'après-guerre, dans un monde qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, vient d'être secoué par des conflits étendus pour la première fois à l'échelle proprement planétaire et qui se trouve déboussolé dans ses valeurs et qui est à la recherche donc d'un nouvel humanisme comme le montrent justement nos philosophes européens comme Sartre et Heidegger que nous évoquions donc au début de ce cours. Donc, du coup, l'enseignement de Confucius apparaît pour beaucoup comme un humanisme nouveau, hein, au sens où il est d'origine non occidentale. Et la première de ces relectures américaines d'après-guerre est celle de Hurley Glessner Creel, autrement connu comme H.G. Creel, que nous évoquions aussi il y a quelques années, donc qui a vécu entre 1905 et 1994, qui a fait toute sa carrière universitaire à l'Université de Chicago, qui est encore aujourd'hui un centre important de la sinologie américaine. Donc Creel est l'auteur de nombreux ouvrages qui portent sur la pensée et les institutions de la Chine ancienne et impériale, mais l'ouvrage qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est celui qu'il a consacré donc à la figure de Confucius et qui paraît donc en 1949, donc vraiment au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui porte le titre de « Confucius, the man and the myth », hein, c'est-à-dire Confucius, l'homme et le mythe, qui paraît à New York en 1949 et qui est republié quelques années plus tard sous le titre « Confucius and the Chinese Way », hein, Confucius et la voie chinoise. Alors, il s'agit d'un livre délibérément grand public, qui manifeste la volonté de faire de Confucius l'annonciateur d'un humanisme pacifiste. Comme le dit Creel lui-même, the Confucians proclaimed men's duty to enlist in the struggle for peace, justice and humanity toward men. C'est-à-dire les Confucéens proclamaient le devoir pour les hommes de s'engager dans le combat pour la paix, la justice et l'humanité envers les êtres humains. Alors, vous voyez que là, le Confucius de Creel est véritablement un Confucius de circonstance qui est censé porter les valeurs d'un humanisme, on pourrait dire tout à fait occidental, puisque on en fait donc le héros, le héros AUT et le héros OS, donc d'un pacifisme humaniste. Alors Creel attribue à Confucius des idéaux politiques qui rappellent très fortement en fait les idéaux politiques du libéralisme américain. Par exemple, Creel nous dit que the insistence that those who govern should be chosen not for their birth but for their virtue and ability, and that the true end of government is the welfare and happiness of the people. Le principe selon lequel ceux qui gouvernent devraient être choisis non pour leur naissance mais pour leur vertu et leur capacité, et selon lequel le véritable objectif du gouvernement est le bien-être et le bonheur du peuple. Et Creel continue, both in France and in England, the fact that China, under the impulsion of Confucianism, had long since virtually abolished hereditary aristocracy was used as a weapon in the attack on hereditary privilege. The philosophy of Confucius played a role of some importance in the development of democratic ideals in Europe and in the background of the French Revolution. Through French thought, it indirectly influenced the development of democracy in America. It is of interest that Thomas Jefferson proposed, as the keystone of the arch of our government, an educational system that shows remarkable similarities to the Chinese examination system. The extent to which Confucianism contributed to the development of Western democracy is often forgotten. Je traduis, tant en France qu'en Angleterre, le fait que la Chine, sous l'impulsion du confucianisme, avait depuis fort longtemps aboli l'aristocratie héréditaire, ce fait a été utilisé comme une arme pour s'attaquer aux privilèges héréditaires. La philosophie de Confucius a joué un rôle assez important dans le développement des idéaux démocratiques en Europe et dans le contexte de la Révolution française. À travers la pensée française, cette philosophie de Confucius a influencé indirectement le développement de la démocratie en Amérique. Il est intéressant de noter que Thomas Jefferson proposa en guise de clé de voûte de l'arche de notre gouvernement, et là Creel cite Jefferson, donc proposa un système éducatif montrant des ressemblances frappantes avec le système des examens chinois. On oublie trop souvent à quel point le confucianisme a contribué au développement de la démocratie occidentale. Et l'avant-dernier chapitre du livre de Creel est tout simplement intitulé Confucianism and Western Democracy, donc confucianisme et démocratie occidentale. Alors, dans ce chapitre, Creel développe donc le parallélisme qu'il voit entre le confucianisme et la philosophie des Lumières des XVIIe et XVIIIe siècles. Donc ce livre de Creel, qui est daté, et je pourrais dire très daté, de l'après-guerre, constitue de toute évidence une lecture du Confucius des entretiens, très américaine par ses références aux Founding Fathers, donc aux pères fondateurs de la démocratie américaine, et encore très fortement inspirée par l'esprit des Lumières européennes. Mais, et nous le verrons donc la semaine prochaine, à partir donc de l'après-guerre, c'est-à-dire à partir des années 1950, nous verrons que le mot humanisme tend à devenir un mot clé pour qualifier l'enseignement de Confucius, comme c'est le cas donc dans un certain nombre d'ouvrages qui sont dus à une nouvelle génération donc de sino-américains dont vous avez les noms en bas de la diapositive ici, comme Chan Winsit ou Tu Weiming, qui pourrait-on dire sont véritablement dans la droite ligne, dans la filiation de Lin Yutang, qui a été donc le premier passeur entre la Chine et l'Amérique dans les années 1930 et 1940, et on pourrait dire que le flambeau est repris donc par cette nouvelle génération donc de sino-américains qui pousse évidemment très puissamment donc à cette nouvelle mondialisation de Confucius. Et nous allons voir à travers eux que nous rejoignons des questions très importantes concernant justement la question de savoir si le confucianisme est une simple philosophie ou une simple sagesse ou bien une religion, comme le disait Lin Yutang dans la citation de tout à l'heure. Donc, est-ce qu'il peut y avoir encore à l'âge moderne donc une croyance dans le confucianisme ? Merci de votre attention et j'espère à la semaine prochaine.